Canalem, on aime l'été.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Aime l'été, Louis Garon, microphone qui vous accompagne en compagnie d'Emmanuel Robitaille. Bonjour Emmanuel.
Comment vas-tu, Louis? Notre premier tandem officiel?
Ben oui, notre premier. J'étais un peu nerveux, un peu fébrile.
Ah, moi, j'étais stressé bien raide.
Mais je suis très heureux de passer la prochaine heure et demie
moi
avec
aussi.
Toi, ainsi qu'avec nos auditeurs très fidèles à Canalem. Également, bon, aujourd'hui, comme à chaque édition d'Aime l'été cette année, encore une fois, un menu fort chargé.
On n'est pas plate. On va commencer avec Julie Aubé, nutritionniste et également fondatrice du projet Prenez le champ, c'est sa deuxième chronique. Elle vient nous parler du blé aujourd'hui. J'en dis pas plus.
Avez-vous l'impression que votre QI baisse, vous, durant l'été?
Je sais pas s'il est haut d'emblée, mais non, j'ai pas remarqué de différence.
Apparemment,
mais je dors plus.
Apparemment, il baisse, c'est ce que va nous expliquer François Baruel.
Charles-Édouard Carrier vient nous parler également des espaces éphémères et des oasis urbains au Québec qui se multiplient, je crois.
Les humoristes féminines, vous le savez, sont de plus en plus populaires.
Oui.
Et on en reçoit une aujourd'hui, Mélanie Ganimé, qui faisait partie de la carte blanche de Philippe la prise hier à l'occasion du festival Juste pour rire et tout fraîchement des sorties de scène. Elle rembarque ce soir sur scène, Emmanuel, puisqu'elle sera au Zénith à Saint-Eustache et nous, on l'attrape entre les deux.
Hey, on est chanceux quand même.
Oui.
Hein? On parle de parentalité positive également. Je vous ai préparé un petit topo là-dessus. C'est toujours
oui,
intéressant de savoir ce qu'on peut dire à nos enfants pour avoir des belles relations.
C'est pas toujours facile et on parle également de journée de sensibilisation à l'autisme où on organise une sortie à la ronde. On vous donne plus de détails plus tard à l'émission.
Chichi ben crié fun jipper, Chichi te souran vampire, en bas la varang au piquet la pluie tombée. Melina pe rempli mokatora. Léo la pluie, tiens moi qui l'a, Mopé prend courage, poil rôde sa la vida. Tidi ben grillé, pon d'hiver, Tidi te souran vapeur, en bas la varang, Mopé get la pluie tombée. Melina pe rempli mokatora, Léo la pluie, tiens moi qui l'a, Mopé prend courage, poil rôde sa la vida. Dati la castole ou koné, quand la pluie la fait tomber, vos senti frisson la lever, en chile à l'amour qui passait. Mélina, tu fais aller vini, dit Django dans ce petit robe de nuit, vos jolies petites femmes, fin des gouttes mon l'esprit. Mélina, qu'est-ce que tu la pluie fait tomber, ça l'est dans la pape ou capable, crépit mon ramasse, souti à zoti. Mélina, qu'est-ce que après Mélina réplique, c'est un causé, pas causé. Papizin, tiens-moi mon connaît. Mélina, qu'est-ce que la pluie fait tomber? Ça l'est dans la pape ou capable, puis me ramasse, souti à souti. Mélina, qu'est-ce que après Mélina réplique? C'est un causé, pas causé. Papizin, tiens-moi mon connaît. En bas la varang, mon piquet la pluie tombée. Babizin, moi, mais nous le montagne. Pour que ça vous fait grimace. Dati la castole, guette, kouma, nous chicocas. Mélina, content sincérité. Moi, mon content simplicité. Nous tiennent à reine complicité. Quand tempête, nous t'y résistons. Babizin, Mélina, mette mini. Pour lui faire mon âme en vili. Quand les temps l'hiver. Dirait sauf moi la vie. Mélina, qu'est-ce que tu la pluie fait tomber? Ça l'est dans la pape ou capable, puis me ramasse, souti à souti. Mélina, qu'est-ce que après Mélina réplique? C'est un causé, pas causé, pas bizin, tiens-moi, mon connaît. Mélina, qu'est-ce que la pluie fait tomber? Ça l'est dans la pape ou capable, puis me ramasse, souti à souti. Mélina,
c'est un causé, pas causé, pas bizin, tiens moi mon conné. Ola et la lile, un petit poissy a fait batté, un petit gâté grasse matinée, la petite la casse de le classé. Ola et la lile, un petit poissy a fait batté, un petit gâté grasse matinée, la petite la casse de le classé. Ola et la lile, oh le la et la la la, tu les la et la la lile, oh le la et la la la.
C'était Désiré François, Dipingrié, qui ouais. C'est du créole et c'est adorable. C'est estival et c'est tellement dans le thème. Et
Louis... Avez-vous pris vos pains grillés ce matin?
Non. Non, moi, j'en mange presque plus de pain. Puis je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais okay. Je te vole pas de punch. Non. Mais tu sais, Louis, pour savoir si quelqu'un est passionné de son travail, mm-hmm. il y a toujours un indice qu'on peut prendre en compte, je pense. Et c'est toujours le fait qu'elle ne s'arrête pas à faire le minimum, son 9 à 5. Il y a toujours un petit quelque chose.
Un petit extra qui fait la différence.
Plus, qui hein? fait la différence et qui fait que la passion transperce et touche tout le monde. Et c'est ce que je peux dire, c'est ce qu'on peut dire de Julie Aubé. Elle est nutritionniste, mais également auteure du livre Prenez le champ et fondatrice du projet qui porte le même nom. Elle porte tous ces chapeaux-là et mène ça vraiment plus loin. Elle est avec nous au téléphone pour nous parler de ce qui nous attend le 28 juillet prochain. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très, très bien. Et vous aussi?
Super bien. Deuxième passage à l'émission à M l'été sur le canal M. La première fois, on a parlé de ton livre, on a parlé de toutes ces activités estivales. Mais là, aujourd'hui, c'est le dimanche 28 juillet prochain qui est à l'honneur.
Oui, avec un de ces événements estivaux oui. qui est sur le thème du blé. Donc, vous l'avez déjà mis la table en
oui.
émission, je crois.
Oh, donc, on parle du blé, c'est du champ au pain en passant par le moulin. Donc, on regarde toutes les étapes par lesquelles notre blé passe. Comment commence la journée?
Alors, la journée commence directement à une ferme qui s'appelle la ferme Truchière. Et puis d'ailleurs, mentionnons d'ailleurs que cet événement-là, il se déroule dans une région qui est magnifique, Kamouraska-Lillet. Donc, on est au bord du fleuve. Là où le fleuve s'élargit avec vue sur Charlevoix de l'autre côté. Donc, c'est dans un environnement comme ça qu'on se retrouve à la ferme Truchière pour, dans le fond, commencer la journée comme il faut. C'est un dimanche matin avec un bon croissant du terroir et un café directement à la ferme avec vue sur le champ de blé. Et ce qui va suivre, en fait, c'est une visite de cette ferme-là, de la ferme Truchière, avec l'agriculteur qui s'appelle Bernard Bérubé, pour comprendre comment ça fonctionne, un champ de blé, comment ça pousse le blé, c'est quoi son cycle, mm-hmm. mais avec sachant que c'est une ferme qui est une ferme de blé biologique. Donc déjà, il y a des particularités en termes d'agriculture et aussi que c'est une ferme qui fait pousser des blés de variétés anciennes. Donc ça aussi, ce sera abordé durant la visite parce que je vous lance la question. Du blé, du pain, on en mange. C'est un aliment qui est quotidien
tellement.
Pour beaucoup de personnes. Hein. C'est si on faisait un test à main levée, je sais qu'à la radio, c'est pas facile, mais je suis sûre qu'on peut imaginer plein de mains levées auprès des gens, que ce soit des gens qui en ont mangé pour déjeuner ou qui vont en avoir.
Ou qui prévoient manger en BLT à midi, tout à fait.
Exactement. C'est un aliment qui fait partie de nos habitudes et mm-hmm. que pourtant, on connaît relativement peu. On peut parler de pommes, on est capable de nommer des variétés de pommes, même de vin qui n'est pas un aliment essentiel ou qui n'est pas un aliment de base, on est capable de nommer des cépages.
Ça dépend pour qui, Julie?
Disons essentiel à la survie.
Absolument, absolument.
mais je comprends ce que vous voulez dire. mais le point étant qu'on est capable de nommer pour plusieurs aliments de notre quotidien des variétés des cépages, puis ce n'est pas vraiment le cas pour le blé. Quand on y pense, le blé, ben c'est du blé, c'est un pain de blé. Ouais. Et souvent, ça s'arrête là, nos connaissances sur le produit. Donc, cette journée-là, dans le fond, le 28 juillet, mais ça sert à aller un petit peu plus loin puis en apprendre davantage sur le blé. Et ben qui de mieux placé que l'agriculteur qui le fait pousser pour nous en parler, comme on en a parlé la première fois aussi,
oui.
ben, d'apprendre les deux pieds dans le champ. Ça nous permet d'associer des histoires, des visages et des paysages aux aliments. Donc,
oui.
vraiment, on intègre bien l'information.
Parce que c'est super important, toi, ton projet à la base. Un des piliers de ce projet-là, c'est vraiment de faire le lien entre l'aliment et le mangeur en connaissant qui les fait. Donc, de créer des liens entre les agriculteurs et la population. Donc, on va aller rencontrer Bernard Bérubé. Là-bas.
C'est exactement
ça.
C'est exactement ça. Puis c'est lui qui va nous en parler. Donc, c'est vraiment de la bouche de l'agriculteur qu'on va enrichir notre culture agroalimentaire sur le blé. Mais ce qui est intéressant de rajouter tout de suite, c'est que tout le long de l'événement, on va être accompagné de Charles Létan, qui est le boulanger, lui.
C'est ça.
Parce que le pain, là, nous, si on achète du blé, on n'est pas nombreux à être capables de partir d'un grain de blé, puis à le moudre, puis à le transformer en pain. C'est nous, ça nous prend cet intermédiaire-là qui est l'artisan boulanger. Puis lui aussi, il arrive avec un bagage de connaissances absolument incroyable, une connaissance du produit, et il va nous accompagner pendant la visite. Donc nous, on va pouvoir poser des questions à Bernard Bérubé, mais Charles aussi va être là pour continuer l'interprétation avec nous.
Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'au-delà de connaître mieux l'aliment lui-même, on se connecte au métier aussi. C'est quasiment un stage d'un jour, tu sais.
Absolument.
Ben, j'ai comme un peu l'impression, et pourtant, tu parles que c'est difficile peut-être à la maison de transformer le blé en pain, mais il y a des machines à pain de plus en plus. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis. Faire le pain, faire notre pain à la maison, c'est comme trendy, c'est à la mode actuellement. Est-ce que c'est... Parce que moi, je l'en fais pas. Moi, je me ferais pas...
Vous faites pas de pain, vous.
Moi, je ne fais pas de pain. Mais est-ce qu'on pourrait, pour ceux qui, à la maison, sont intéressés à en faire ou en font déjà, est-ce qu'il va y avoir des choses, des trucs à apprendre pour répéter à la maison?
Je dirais que cet événement-là, il est plus du point de vue agricole, transformation du grain de blé. C'est pas nécessairement un cours de fabrication de pain à la maison. Cela dit, on passe toute la journée avec le boulanger, donc avec Charles, et il y aura plein d'occasions de lui poser des questions aussi. Puis l'événement, il se termine, parce que ce qu'on l'a pas dit encore, il se termine par ce qu'on appelait un buffet boulanger. Donc le repas du midi qui est servi aux participants, on met sur la table là, plein de pains, d'éléments pour se faire des sandwichs, mais le but vraiment est de mettre en vedette les pains de Charles, de sa boulangerie qui s'appelle Du pain, c'est tout. Et il sera avec nous, avec son équipe. Donc, vraiment, les gens qui veulent aussi aller plus loin dans la conversation puis poser des questions, justement, sur la fabrication.
Il y a cette ouverture-là.
Bien, ce sera tout à fait possible de le faire en termes de questions avec le boulanger. Il y a un autre, mais vous parliez de métier, il y a un autre métier qu'on n'a pas encore nommé. Parce qu'entre l'agriculteur qui fait pousser le blé et Charles, le boulanger qui transforme le blé, la farine en pain, bien, il y a le meunier.
De la fameuse meunier, tu dors, mais là, il dormira pas, il va être là, il va être bien présent, il va nous répondre.
Exactement. Ben, il va nous faire visiter le moulin. Et le moulin qu'on va visiter, c'est un moulin qui est spécial aussi parce que c'est un moulin seigneurial. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est patrimonial et qui est encore en activité aujourd'hui. Donc, vraiment, même les passionnés d'histoire et de patrimoine vont trouver leur compte dans cet événement-là. Puisque c'est pas un moulin comme les autres, là, c'est vraiment un moulin qui est historique, mais on va vraiment voir le moulin en action, transformer les grains de blé de la région en farine biologique moulue sur place, dans le fond, avec la meule de pierre. Et encore là, ben Charles, le boulanger, va pouvoir nous indiquer, lui, ce qu'il cherche d'une bonne farine pour fabriquer ses pains par la suite, c'est quoi les éléments recherchés, c'est quoi ce qu'on aime moins d'une bonne farine. Et le meunier, qui s'appelle Régent Labbé, mais c'est lui qui va nous faire visiter le moulin là où il travaille depuis des années. Donc, on passe vraiment...
Julie, moi, je me rappelle qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait vraiment le moulin de Saint-Roch-des-Aunais, qui est un peu dans cette région-là. Est-ce qu'il y en a combien de moulins encore actifs au Québec? Là?
C'est rare, là.
Ah, c'est une bonne question, puis je ne saurais y répondre. Des moulins ancestraux patrimoniaux qui fonctionnent encore aujourd'hui, ils se comptent probablement sur les doigts de deux mains, peut-être d'une, je ne sais pas, mais il y en a.
OK.
Mais encore en activité, c'est peut-être là où je saurais pas donner un chiffre précis. Mais celui que vous venez de mentionner, le moulin seigneurial de Saint-Roch-des-Aunais, c'est celui-là qu'on visite là, pour l'activité.
Bon.
C'est là que ça se passe.
Ça donne déjà une très bonne raison de choisir le 28 juillet prochain ton activité qui est de le pain en passant du champ au pain en passant par le moulin. Je rappelle à tout le monde que c'est le 28 juillet prochain à Kamouraska, que ça se passe à la ferme Pruchière. Plus précisément, il y a une visite, des rencontres, deux repas et une expérience qui est hors du commun pour 68 $ à faire en amoureux, en famille aussi, j'imagine. Et si on hésite entre deux activités estivales, je tiens à le mentionner, Julie, que tes événements Prenez le champ ont remporté le prix du tourisme gourmand lors du premier gala des lauriers de la gastronomie québécoise l'an dernier. C'est pas peu dire. Donc, si on hésite encore, je pense que c'est terminé. Et pour suivre toutes les autres initiatives de l'été, on se procure ton livre et on consulte le projet lui-même sur le julieaubé.com. Merci beaucoup, Julie.
Merci.
Merci à vous. Merci pour votre intérêt.
sortir de bord, j'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires, oublie pas que je te tiens. J'ai pas la formule magique pour que la vie soit plus juste. Même quand la mer s'agite, y'a que nos voiles qui s'ajustent. Perds pas ton temps à chercher le pourquoi du comment. Tu t'épuises à crier contre le mauvais temps. Si t'as le vent d'en face, vire de bord. J'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires. Ton cœur est un cube Rubik et moi j'ai les mains pleines de pouces. Mais j'aime pas te voir tout à l'envers, toi qui me remets toujours en ordre. Pourquoi t'accroches-tu aux repères qui te maintiennent dans ton désordre? Si t'as le vent d'en face, revire de bord. J'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires. Soit plus juste, faut s'attendre à ce que ça pique. Le monde entier est un cactus, mais y'a des fleurs dans ton sourire qui font rougir le printemps. T'as tout un jardin à offrir quand la lumière brille en dedans. Si t'as le vent d'en face, revire de bord. J'ai jamais vu une girouette toujours pointer le nord. C'est vrai qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires. Je sais qu'on fait une drôle de paire au milieu du chemin, mais dans les vents contraires, oublie pas que je te tiens.
Bonjour Louis.
Pourquoi nous parler de quotient intellectuel plus précisément aujourd'hui en plein cœur de l'été?
Ben justement, parce que je trouve ça c'est très amusant finalement. On ne s'imagine pas, on faisait un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ouais. On fait une baisse de quotient intellectuel sans le savoir quand on est en vacances et qu'on se repose au bord de la piscine ou au bord du lac à ne rien faire et à boire de l'alcool tranquillement au soleil avec la chaleur. Ben, en fait, on a une baisse du quotient intellectuel.
Marquée quand même.
Oui, d'une dizaine de points.
Ah oui.
Tout de même. On a une dizaine de points, c'est 13 points en réalité d'après les statistiques, mais c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est la différence entre le premier de classe et l'élève très moyen. On redescend à ce niveau-là. C'est très étonnant de voir qu'on peut baisser son quotient intellectuel, mais en réalité, ça s'explique parce que l'activité neuronale est moindre, puisqu'on ne bouge pas beaucoup, ou moins, et qu'il y a une baisse de l'oxygénation des neurones, et il y a moins de transmission entre tous les neurones, et il y a une moindre activité, c'est tout bête. Et en plus, il y a une déshydratation du cerveau si on ne boit pas assez, s'il fait très chaud. On parlait la semaine dernière d'hyperhydrose, et on disait qu'on pouvait très bien perdre jusqu'à 4 litres d'eau par jour. Eh bien là, si on ne boit pas à ce moment-là, on a une diminution de la quantité d'eau dans les cellules, dans les neurones, qui sont beaucoup moins efficaces.
Et qui peuvent accentuer cette perte de quotient intellectuel dont vous parlez. Au niveau de la principale différence, comment on sait qu'en ce moment, on pense un peu moins vite, on est moins sur le qui-vive, on réagit moins rapidement, peut-être nos moments de réaction sont un peu plus longs, plus lents. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de problèmes qui sont engendrés par cette baisse de quotient intellectuel.
Non, parce que justement, en fait, c'est presque une adaptation. Finalement, on repose, on se relaxe.
Et c'est se relaxer chose, au fond.
Mais oui, bien sûr. Mais c'est on se relaxe et on se laisse aller et on fait pas d'efforts intellectuels forcément puisque
pour ça qu'on qualifie toujours la tête. Pour ça qu'on dit toujours que les lectures estivales sont plus légères, demandent un peu moins de concentration et tout ça.
C'est exactement ça. Oui. Les pavés de plage, c'est jamais un livre de philosophie de Schopenhauer.
Non, c'est
je crois pas.
On est plus dans la petite histoire, peut-être un amour à l'eau de rose,
l'histoire
de faire rêver quelque
peut-être.
Peu. Oui. Hein. Et juste pour rassurer nos auditeurs, lorsque vous perdez par exemple cette perte de qui peut aller jusqu'à 13 points, on la reprend.
Bien
par
sûr.
La suite, hein.
Mais bien sûr, on retrouve son quotient intellectuel de départ dès l'instant qu'on se met à bouger. D'ailleurs, pendant les vacances, si on fait des randonnées, si on fait de la marche, si on joue au Scrabble, si on joue au bridge, aux cartes, ou n'importe quoi, on le retrouve très rapidement, bien sûr.
Et je présume pour les gens, par exemple, qui font qui voyagent avec un sac à dos, qui doivent se promener de plusieurs de pays en pays, puis souvent qui sont aux prises avec peut-être des mésaventures ou des épreuves auxquelles qu'ils n'avaient pas planifié. Ça, je suis convaincu que là, la perte de quotient intellectuel chez ces personnes-là, au contraire, elle augmente.
Au contraire, ils sont tout à fait à l'écoute et très intéressés, puisque ce sont des aventures qu'ils sont en train de vivre. Mm-hmm. Donc, eux, n'ont pas du tout de quotient intellectuel. Non, moi, je vous parle du vacancier qui se repose sur la plage, sur son ponton, et qui ne fait rien du tout de la journée. C'est-à-dire quand même une grande partie, le contemplatif, c'est ça.
Et pour cette baisse de quotient intellectuel, souvent, on a tendance à... Longtemps, le quotient intellectuel était très, très important. C'était le facteur premier pour mesurer l'intelligence d'une personne. Est-ce qu'avec le temps, le quotient intellectuel s'est un peu banalisé ou c'est plus vraiment l'état?
C'est plus vraiment la chose. Parce qu'en réalité, le quotient intellectuel, c'est quelque chose de très spécifique. Ce sont donc des tests qui sont bien spécifiés, bien normés, et il faut répondre à ces questions-là. Mais le quotient intellectuel, donc, ne concerne que des choses qui sont très formelles. L'intelligence n'a pas grand-chose à voir réellement avec un quotient intellectuel. L'intelligence, c'est vivre avec les autres et réagir correctement.
Parler ici un peu plus d'intelligence émotionnelle aussi, où ce qu'on s'adapte aux différentes personnalités ou aux gens qu'on côtoie.
Absolument. Mm-hmm. Mais le quotient intellectuel en lui-même, ça ne veut pas dire énormément de choses.
On l'a comme délaissé un peu au fil des ans.
Tout à fait, ça a beaucoup moins d'importance.
Parce qu'on en parle beaucoup moins régulièrement.
Et surtout, ça a moins d'importance et on le prend moins en compte.
Oui, surtout. Puis le fait que, vous en parliez qu'il y a une baisse, ça ne semble pas être trop compliqué.
Non, c'est plutôt amusant qu'autre chose. Parce qu'on est, d'ailleurs, on est parfaitement, on le fait soi-même et on en est conscient quand on se relaxe.
Oui.
C'est ce que je disais tout à l'heure. L'expression se vider la tête, c'est pas rien.
Et l'importance de prendre ce moment de repos, parce que souvent les gens ils partent en vacances, ils anticipent leurs vacances. J'ai assez hâte de tomber en vacances. Qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances? Je vais rien faire. Mais plusieurs personnes ont de la difficulté à lâcher prise un peu. Est-ce que vous avez des conseils pour accentuer la baisse du quotient intellectuel au cours des vacances, François?
C'est une prescription.
On peut lire, aller sur le bord de la page et tout ça, ne pas penser au boulot. Pour ce qui est du quotient intellectuel en tant que temps, j'ai plus de questions à te poser, François. Au niveau vacances, le quotient intellectuel baisse. Qu'est-ce que je pourrais te poser encore plus comme question? On a passé ça, la baisse, on va le ramener. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question, François?
Sur le quotient intellectuel?
Sur la baisse, quotient intellectuel.
Est-ce qu'il y a une nourriture qui permettrait d'améliorer le quotient intellectuel
en
vacances?
Est-ce que faire du barbecue peut éventuellement aider à l'augmentation du quotient intellectuel?
Bien sûr, puisqu'on bouge.
Ouais.
L'important, c'est de bouger pendant les vacances.
Ouais.
C'est de ne pas rester allongé le long d'une piscine ou sur un ponton.
Donc, alors, pour ceux qui ont peur de perdre leur quotient intellectuel,
Aucun problème.
On les encourage, bien sûr, à faire de plus en plus d'activités physiques.
Tout à fait.
Et mentales. Jouer au bridge, comme vous disiez, c'est fort important, surtout sur un ponton. Jouer aux cartes, ça peut être fort intéressant et surtout fort agréable lorsqu'on est en bonne compagnie.
Bien sûr.
Merci beaucoup pour ces précieux conseils, histoire de s'alléger la tête et laissez un peu votre quotient intellectuel baisser. Il n'y a pas de souci à avoir. Merci beaucoup, François Baruel.
Merci.
I'm facing the river, the cold air makes my cheeks blush, and this rhythm now is so fine, and you're mine. This blood pumping makes my chest move in a peculiar way, and I just can't say why, and it's alright. Sun is rising, I must confess now, we got something going on. Something so true, yeah, we got a good thing.
Strike my chords and it's so good. You've been mixing my emotions like you're making room, soda, don't junk on your love. Got me seeing double vision, but the vision never been clearer. That one day I'd find a mate, his soul would be so great, and kids we'd have a bunch, always together at lunch, and build a home with chump change, always on the same page. Now that I found you, we don't gotta worry. Now that I found you, we don't gotta worry.
Sun is rising, I must confess now, we got something going on.
We got a good thing.
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été avec Emmanuel Robitaille, Louis Garon, encore pour une heure et on n'est plus seul en studio.
Non, on est accompagné.
Dans quelques instants, on va parler avec Charles-Édouard Carrier des espaces éphémères et des oasis urbains au Québec qui poussent et poussent et poussent.
Vous fréquentez, vous, les oasis urbains? Non, pas encore?
Ben, non, je pense
peut-être qu'après la chronique de Charles-Édouard, ça va vous donner.
J'aimerais ça que j'aille une activité.
Je te vois encore. Hein?
Je t'annonce que tu me vouvoies, Louis, j'aime pas ça. Je me sens
trippé.
Je me sens comme une madame. Et plus tard, on a Mélanie Ganimé qui va venir nous parler d'humour au téléphone dans quelques instants. Restez avec nous.
Tout recommence, tendre la nuit, les illusions qui marchent. gaieté de bonheur, je suis un voleur d'éternité dans un monde blessé. Et je cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City. Et je cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City. Cours, 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 le vent remplissant les étranges oranges du temps. Nous sommes les marionnettes du temps qui s'arrête. Tous les chemins mènent en enfer, pendant que le cœur dans les airs s'accroche au sommet des éclairs. Tous les chemins mènent en enfer, mais quand tu vois la porte en fer, il est trop tard pour te refaire. Retour au concessionnaire, on ne sait pas le grand mystère. Arrivent les hélicoptères. Et je cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City. Et je cry, baby, who? À Paradise City, à Paradise City.
Jean Leloup, hein?
Paradis City, parce qu'il y a des paradis dans les villes.
De plus en plus. Hein? Oh. On appelle ça maintenant, mais il y en a qui ont appelé ça des aires communes ou des oasis urbains. Et pour en parler, on reçoit cet après-midi Charles-Édouard Carrier. Salut Charles-Édouard.
Salut, ça va bien?
Ben, je vais tutoyer aussi parce que là, on est comme dans la phase du tutoiement parce que je ne peux pas vous voyer Charles-Édouard puis tutoyer toi parce que je vais tout être mêlé. Mais Charles-Édouard, tu nous parles de ce nouveau phénomène. Parlez-nous, premièrement, il y en a plusieurs ici à Montréal, mais également dans la vieille capitale, mais avant tout, en quoi ça consiste, ces petites aires communes?
Ben, en fait, c'est ces espaces éphémères-là, comme on les appelle, dans le fond, l'objectif principal, je pense que c'est de nous faire oublier un petit peu qu'on a le cycle des saisons. On n'a pas le choix, on doit vivre avec. L'espèce d'ambiance tropicale, surf, fish taco, là, c'est pas 12 mois par année, malheureusement. Donc, en fait, ces espaces-là se veulent vraiment donc une appropriation de certains espaces publics. On les transforme, on les aménage. Mm-hmm. Ça dure durant, seulement la période estivale. Et il y en a vraiment de plus en plus. C'est des espaces qui sont ouverts à tous, qui sont où l'ambiance est vraiment, c'est les tropiques. C'est les tropiques.
Puis aussi, ça me fait penser un peu aux endroits où ce que les gens vont pour travailler un peu, les espaces de co-working aussi, où les gens se regroupent là. Les gens vont peut-être moins en moins dans les bars parce que même dans les endroits communs comme ça, je pense qu'également on offre de la nourriture, on offre aussi également des boissons alcoolisées. Il y a des moyens d'avoir quand même beaucoup de plaisir. Ici, bon, on va commencer par la vieille capitale, à Québec. Il y en a beaucoup. Parmi eux, bon, il y a un endroit qui est très connu, bien sûr, c'est la baie de Beauport ou les battues, comme on appelle ça dans mon temps, où on offre également aux visiteurs la possibilité de se baigner ou de s'adonner à la voile, mais également des aires communes où ce qu'on paye là pour relaxer puis se sentir un peu d'exotisme, un peu sentir sur le bord de la plage.
Déjà, en partant de la baie de Beauport, je pense que c'est un lieu qui est magnifique à Québec. Lorsqu'on parle de la vieille capitale, on est vraiment sur une espèce de pointe où on a devant nous l'île d'Orléans, on a le vieux Québec d'un côté, puis la rive nord de l'autre. C'est magnifique comme espace. Il y a la plage, bon, tout ça. Mais maintenant, donc, il y a l'Oasis Sun Life qui est là, qui est installé là maintenant, donc avec toutes sortes de structures en bois, des hamacs, des tables à pique-nique.
Mais ils ont fait le Full Moon Party, là, dans le temps du Full Moon, là.
Oui.
J'y étais.
Ah oui!
Ça roulait plutôt mal, mais c'était quand même drôle.
Un peu de sable dans l'engrenage. Ouais,
donc le calendrier de la baie de Beauport est vraiment très chargé. Ouais. Par exemple, on a les mercredis. Tous les mercredis, il y a des motocyclistes qui se rencontrent là. C'est organisé par un groupe qui s'appelle La Ronde à Québec. Il y a des food trucks, il y a le service de bar, tout ça. Il y a les vendredis festifs. C'est des spectacles gratuits pendant tout l'été. Et c'est quand même des gros noms. Entre autres, il y a Caravane qui va jouer là, donc à la fin de l'été.
Un groupe rock.
Et quand même, on est carrément donc sur le bord de l'eau. Très, très beau site. Et encore là, ça roule là, jusqu'au début de l'automne.
On sait que le quartier Saint-Roch s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années et c'est même doté d'une marina, pouvez-vous le croire?
La marina Saint-Roch, en fait, donc c'est sur l'espèce de rivière, un petit bout de la rivière Saint-Charles.
Qui a été quand même, on a mis de la verdure, tout ça.
Oui, beaucoup de travail.
Avant, c'était un peu triste. Hein? C'était que du béton. Maintenant, on a décidé de planter.
C'est
la verdure.
On a aménagé.
On a aménagé.
Avec avec la piste cyclable, ouais. Bon, et tout ça. Mais ce qui est le fun avec la, parce qu'on parle de béton, justement, c'était une piscine, donc une piscine publique qui était là, et c'était vraiment, effectivement, très bétonné. C'était un peu triste, en fait, comme look. Par contre, là, ce qu'on a fait, c'est, bon, évidemment, le béton est encore là, mais on a ajouté encore là des structures de bois, des grandes voiles pour faire des zones d'ombre. Il y a de la bouffe sur place, il y a un bar, il y a des DJ, il y a des soirées yoga, des matinées yoga, de la méditation et tout ça. Et encore là, ben, tout ça, c'est dans un quartier ou dans un espace, en fait, qui était un petit peu sous-utilisé. Puis grâce à genre, l'espace éphémère, on a créé une espèce de belle énergie dans ce coin-là pour les gens du quartier.
Si vous habitez pas dans la vieille capitale, mais à l'extérieur, bon, à Montréal, plus précisément, également, on retrouve un peu de ces oasis et ces aires communes, Charles-Édouard. Il y a le Jardin Gamelin ici, en plein centre-ville de Montréal.
C'est probablement un des premiers, en fait, qui s'est illustré dans cette espèce de veine-là, donc des espaces éphémères. C'est en 2015 où on a créé pour la première fois cet espace-là. C'est un calendrier qui est extrêmement chargé. Il y a plusieurs activités, mais là, c'est pas seulement à tous les jours, c'est dans la journée. Donc, il y a des activités, par exemple, si on regarde, là, que ce soit des soirées salsa, des soirées musique brésilienne, il y a beaucoup de choses pour les enfants aussi, les fins de semaine, les 0-12 ans. Il y a des ateliers d'agriculture urbaine. C'est quand même super intéressant.
Super à mode aussi.
Ouais, puis il y a une mini-serre, en fait, où on peut aller cueillir soi-même ses fines herbes. Donc, directement en plein cœur du centre-ville, coin Sainte-Catherine-Berry, c'est quand même pas rien, là.
Mais j'ai une question, Charles-Édouard. Est-ce que ces places-là ont des heures d'ouverture, de fermeture? On se rend là quand on veut?
La majorité. Oui, c'est ça. Donc, c'est une très bonne question. La
majorité. Moi, mettons, 2 heures du matin, j'ai pas travaillé.
C'est plus
dur. Ou à 6 heures le matin. Non, mais tu sais, il y a du monde super matinal.
Puis il y a des gens qui habitent autour aussi, hein.
Oui, en fait, ce qui est le fun avec ces places-là, c'est que c'est pas, justement, il n'y a pas cette espèce de notion-là de ouverture, fermeture. Bien entendu, les services, le DJ, les calendriers, ça se passe.
C'est plus quand il fait noir.
Les heures d'achalandage, mais ça reste que c'est des bancs, c'est des tables, c'est de l'aménagement qui est là en permanence. Donc, c'est le fun parce qu'on peut vraiment en profiter. Puis c'est ça l'objectif. C'est vraiment de créer des lieux de rencontre au cœur de la ville.
Un endroit que j'ai fréquenté, c'est celui, l'aire commune, dans... Oui, mais écoutez, regardez-moi pas comme ça.
Mon Dieu, oui, tu fréquentes des endroits.
Oui, je fréquente des endroits. Je sors de chez nous, puis des fois, je sors du travail également pour voir du monde. Je fais pas que travailler. C'est le nouvel espace de travail qui se retrouve dans le Mile End, hein, où il y a également une murale. Parce que ça fait penser aussi, les murales et tout ça, ça rentre un peu dans le même esprit. On veut habiter l'extérieur sans rentrer à l'intérieur. Et puis, ça, c'est un nouveau, c'est un nouvel espace qui a été construit, et on peut, il est très 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 agréable.
Deuxième saison, en fait, pour l'aire commune dans le Mile End. Déjà en partant, c'est un quartier qui bouillonne d'activité, de créativité, c'est un quartier qui est hyper dynamique, et là, ce qu'on a fait, parce qu'il y a énormément de bureaux, c'est des grosses tours, on a permis aux gens d'aller travailler à l'extérieur, fait que là, dans le fond, on est dans l'aire commune, mais aussi l'espace coworking, donc il y a un super bon Wi-Fi qui est accessible, il y a beaucoup d'espace pour avoir des tables de travail, des espaces même de micro-réunions fait, là, avec des divans et tout ça. Donc là, on est vraiment plus dans l'esprit de on sort dehors, mais on travaille. On est productif, mais on est dehors.
Puis aussi, bon, on peut prendre des boissons alcoolisées également, là-dedans, puis aussi des gens qui arrivent. Beaucoup de gens, moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du jogging, puis après le jogging, bon, on va aller prendre un petit verre à l'espace, à l'air commune. Ouais. Alors, on veut pas, c'est en plus d'être agréable, c'est très, comme tu le disais plutôt, très trendy, Charles-Édouard. Il y a également le Petit Montréal, hein, qui est le plus récent espace éphémère dans la métropole.
C'est le tout dernier.
Le petit bébé.
Oui, c'est ça, exact. Et d'ailleurs, dans la recherche, j'ai appris un nouveau mot, la placette. Donc, une place publique, c'est une chose, mais une placette, c'est encore plus petit.
C'est petit, c'est tout petit. Mais c'est bien cute.
Donc, le Petit Montréal, c'est un petit peu ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est que, bon, il y a un très grand chantier qui se passe dans le coin du Square Phillips en ce moment. Ouais. Et pour garder les gens dans le secteur, pour garder les gens dans ce bel espace-là avec le beau parc, on a fait un aménagement qui s'appelle le Petit Montréal. Alors là, ben, on veut garder les touristes, on veut amener les gens dans cet espace. Ça, qui est difficilement accessible à cause du chantier. C'est super beau encore là. Il y a de la bouffe locale, il y a de la microbrasserie qui est en vente, kombucha, des trucs comme ça, sans alcool aussi.
Kombucha, c'est le mot-clé qu'il fallait que tu introduises dans ta chronique.
Je m'étais dit que j'allais le faire.
Ça aussi, c'est super trendy. Hein? C'est vraiment mode de kombucha.
Au niveau de l'accessibilité, Charles-Édouard, est-ce que c'est pour tout le monde peut aller là sans
moi, j'ai
être déçu?
Hein? Tous ceux dont on a parlé aujourd'hui, j'ai communiqué avec eux. On m'a tous dit, on m'a garanti là, que c'était accessible à tous. Par contre, vous faut quand même rester réaliste, c'est des espaces qui habituellement ne sont pas utilisés. Donc, on fait des trottoirs
des
fonds,
en
bois.
Des friches.
C'est ça, on s'organise. Donc, en même temps, bon, oui, c'est accessible, mais c'est pas... On prend par exemple le pied du courant sur le bord de l'eau près du pont Jacques-Cartier. À peu près trois quarts de l'espace est en sable.
Genre la baie de Beauport.
C'est ça. Donc, oui, c'est accessible, mais en même temps, il faut faire attention. Oui, par contre, ce qui est intéressant, Jardin Gamelin, lorsque je leur ai parlé, m'ont assuré qu'il y a sur place, il y a des gens qui sont là, qui
pour
peuvent
aider.
Donner un coup de main. Oui, effectivement.
Donc, ah, ça, c'est génial.
Eux ont été précis là-dessus. Donc, wow. Si on a besoin d'un coup de main, il y a vraiment
appelle.
Des équipes sur place, puis ils peuvent nous aider effectivement à se rendre.
Pas de raison de bouder votre plaisir cet été et visiter vraiment les aires communes et les petits oasis
et
de
les
bonheur.
Puis les
surtout quand il fait beau, quand il fait chaud. Puis quand vous savez, hein, comme tu le dis, Charles-Édouard, il y a des petits rafraîchissements. Alors, pour ceux qui ont peur de se déshydrater, là, allez-y. N'hésitez pas. Bien, merci beaucoup, Charles-Édouard. En fait, je ne savais pas quoi faire ce week-end, mais là, tu viens de me donner une très, très belle suggestion.
Endroits,
oui.
Oui,
j'ai l'embarras du choix.
Ouais, c'est, merci,
Charles-Édouard Carrier, notre journaliste explorateur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de l'invitation. Bye-bye.
J'espérais tant de ton sourire, petite brune aux grands yeux bleus. Tu peux un jour me rendre heureux
en guidant tes premiers pas. On t'apprendra à t'éloigner de ceux qui t'ont tendu les bras et qui n'ont pensé qu'à t'aimer. Faire souffrir et mettre à nu ton petit cœur. J'aimerais mieux me faire mourir que voir ma Mélanie qui pleure.
Petit enfant d'amour,
Mélanie, ne grandis pas comme ça.
Mélanie, un grand succès de Chantal.
Paris.
Bien oui, bien merci. Ça, c'est votre choix, c'est ton choix musical,
comment,
ça,
comment mieux accueillir une Mélanie qu'en criant son nom pendant 3 minutes et demie?
Oui, tu as parfaitement raison. J'aurais pas trouvé mieux moi-même.
On l'acclame.
La fameuse Mélanie dont tu parles, c'est Mélanie Ganimé qui était hier soir, hein, à la carte blanche de Philippe Laprise à l'occasion du festival Juste pour rire. Une carte blanche qui était présentée à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Mélanie Ganimé, comment ça s'est passé?
Bonjour!
Ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est super bien passé. C'était super le fun. Une super belle soirée, ambiance magnifique en coulisses. Puis la salle était extraordinaire aussi. C'était une très belle soirée. Ouais.
Pour une humoriste qui, je dirais pas commence sa carrière, mais quand même qui était ses premiers. En ce moment, vous tournez votre premier spectacle solo, Brut. Mm-hmm.
Oui.
De faire une grosse salle comme la salle Wilfrid Pelletier, c'est intimidant ou vous étiez prête, au contraire, vous aviez goût et hâte de fouler les planches?
Ben, j'avais le goût et j'avais hâte. C'est sûr qu'il y a une partie de cet intimidant, parce que c'est quand même, c'est peu commun. Là, on fait pas la salle Wilson Pelletier à tous les jours. Mais c'est comme excitant, c'est un défi. C'est le fun de dire check, je l'ai fait, c'est le fun. Mm-hmm. Là, c'était mon cinquième gala hier. Fait que ça, mettons la salle Wilson Pelletier, j'ai fait une fois par année, mettons.
Okay.
Fait que là, c'est comme une fois par année, elle nous manque, qu'on a hâte de la retrouver quand elle arrive. Là.
Là, vous êtes en tournée, bon, après l'épisode de Carte blanche avec Philippe Larise, vous continuez votre tournée pour votre premier one-woman show brut. Oui. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui se trouve derrière ce premier, qu'est-ce que vous voulez dévoiler là, dans ce premier spectacle?
En fait, Brut, c'est un spectacle où je me présente aux gens parce que souvent, je suis une découverte. Moi, je fais beaucoup de scènes, un peu plus de scènes que de la télé, mettons. Fait que les gens, souvent, ceux qui prennent le risque d'aller voir quelqu'un ou de découvrir, souvent, ils apprennent à me connaître live, là, sur la scène. Fait que c'est vraiment une vitrine où je me présente puis je parle de tous mes travers. Fait que moi, des fois, je peux faire de l'anxiété parce que des fois, je me tape les nerfs ou que j'ai des drôles de réflexions. Puis je me dis, c'est pas vrai que je vais vivre ça toute seule.
je t'accompagne, Mélanie. Oui, on est deux.
Donc, c'est vraiment un spectacle où, justement, je vais fouiller dans ma perception de moi-même, dans la perception que j'ai des autres. Tu sais, je dénonce mes travers. Moi, je juge les gens dans la vie et je me juge énormément. Fait qu'on dirait que j'amène tout ça, puis là, je raconte c'est comment un peu dans ma tête. T'sais, souvent, les humoristes, on va se servir de notre univers pour expliquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit ou de la façon qu'on perçoit les choses. Fait que c'est vraiment... C'est une thérapie, mon spectacle.
Ouais. En entrevue, vous avez dit il faut d'abord reconnaître ce qu'on a de laid à l'intérieur de nous. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de laid à l'intérieur de Mélanie Ganimé?
Ben justement, mais ça, je trouve qu'accepter les choses, pour moi, c'est un défi.
Par exemple, qu'est-ce que vous avez du mal à accepter?
Accepter de vieillir, accepter d'être pas bonne dans quelque chose, accepter d'avoir de la misère, ou accepter le célibat, ou accepter d'avoir des mauvaises expériences de dating.
Mais ça commence à faire pas mal de choses, Mélanie. Vous devriez vous donner un break, comme on dit.
C'est une grande résistance.
Es-tu jungienne, Mélanie? Parce que Jung est beaucoup dans l'ombre à l'intérieur de soi, hein, d'aller découvrir cette
part. Je vais étudier ça.
Oui, tu devrais lire Jung. Il faut découvrir nos ombres pour s'aimer complètement. Mais c'est un travail qui est bien tough puis bien plate.
Non, ben honnêtement, c'est une source infinie d'inspiration, par contre. Mm-hmm. Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Ça prend beaucoup d'humilité, par exemple. Heureusement, j'en ai une petite partie là. J'arrive à avoir l'humilité de m'en servir pour créer quelque chose et aller en parler avec les gens parce que j'ai l'impression que quand on se stoule, c'est plus facile d'accepter. Une fois que je me stoule au public, on dirait que c'est là que j'ai.
Fait que ça vous fait du bien de. C'est un peu comme de toute thérapie, là.
Ben vraiment. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que. On est tous des humains, là. Fait que souvent, les gens, ils viennent me voir après, ils sont comme, oh mon Dieu, ça m'a fait du bien que tu parles de ça, c'était drôle, je me suis reconnu. Fait que c'est ce qui devient épayant des deux bords, tu sais.
C'est un peu la clé de l'humour ici au Québec. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, puis on mène au travers, on fait des grosses caricatures. Mais des fois, c'est pas toujours évident de transposer ces comportements en blague ou en joke. C'est quoi votre secret, vous? C'est quoi votre technique, Mélanie?
Ben, c'est honnêtement, pour moi, personnellement, c'est le recul, là. C'est quand moi, je vais être capable de rire de mes travers à moi que là, je vais être capable de le faire à chaud, c'est pas possible. J'ai juste l'air fâché. ça marche pas, mais avec du recul, puis après avoir vu la psy, ça aide beaucoup, je te dirais.
Non, mais dans le fond, c'est vrai, parce qu'il faut avoir accepté avant de pouvoir en rire et de faire des blagues. Mais des fois, c'est de faire le numéro qui peut peut-être aider à amener à la guérison de ces choses-là aussi. Là.
Oui, absolument. Dans le show,
c'est un peu les deux. Les deux.
Ils changent au fur et à mesure. Là, il y a des numéros que j'avais écrits parce que j'avais certaines pistes d'idées qui n'étaient pas complétées dans mon cœur et dans ma tête. Puis là, mettons, j'ai réussi à... être en paix avec mon thème, ben je joue vraiment mieux maintenant. Fait que, tu sais, il est vivant, mon spectacle. Je trouve que c'est ce que j'aime le plus. Je savais pas quoi m'attendre. Je n'avais jamais fait de tournée. Fait que là, ce que je trouve le fun, c'est de voir qu'il y a des numéros que je ressens plus fort puis je suis meilleure en le faisant. Fait que c'est vibrant. C'est ça qui est cool.
Vous n'êtes pas arrivé vraiment à l'humour de façon traditionnelle. Hein? C'est quelque chose que vous aviez derrière la tête, mais que vous aviez repoussé. Et à un moment donné, vous avez décidé, ben là, c'est ça que je veux faire rire les gens. Qu'est-ce qui a été le déclic?
Plusieurs choses, mais j'ai lu un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage? » Mm-hmm. Puis dans, ouais. dans le livre, il y avait une page où quelqu'un laissait une note, en tout cas, puis pour faire réfléchir un de ses amis. Puis il disait, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Puis moi, cette phrase-là m'a beaucoup chicotée. Je me suis réveillée durant la nuit à 4 heures du matin, puis je me disais, ben oui, c'est vrai, tu sais, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Puis ma réponse était, si j'avais pas peur, je partirais par la route de Compostelle, puis au retour, je ferais l'École nationale de l'humour. Fait que le lendemain, ben, j'ai lâché ma job, je suis déménagée, puis je suis partie faire Compostelle. Puis à Compostelle, j'ai pris ma décision de venir faire les auditions de l'École nationale de l'humour.
OK. Est-ce que vous aviez une expérience, petite expérience d'humour, ou c'était seulement que la fille drôle qui fait rire tout le monde?
Ben, j'avais animé puis écrit des shows au secondaire. T'sais, j'ai toujours été bien comique, je pense, là, okay. puis très créative, mais j'avais jamais fait de show. J'avais jamais tenu de micro dans ma vie, dans mes mains, j'avais jamais rien fait. J'étais pas game. Moi, j'avais un sentiment d'imposteur. Si j'avais pas mon papier, j'étais pas game, on dirait. J'avais besoin de savoir mm-hmm. que j'avais le droit à lui-même, tu sais. Puis à mon époque, quand on faisait l'école, on n'avait pas le droit d'aller dans les bars faire des spectacles non plus. T'sais, c'était uniquement après l'école. Fait que ça a été tout un processus d'apprendre à aller jouer dans la vraie vie après.
En tout cas, ça a payé moi, parce que t'es au Zénith ce soir à Saint-Eustache, ben puis oui. t'en fais bien des shows présentement.
Oui, présentement, oui, ça oui, va là, très bien. C'est votre premier. Puis, bien, écoutez, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir au cours de cette tournée qui fait quand même tout juste débuter. Hein. Ça fait pas tant de spectacles que vous faites depuis le début de la saison. Ben, ça a commencé en 2017.
Une bonne trentaine.
Ben, une bonne trentaine, mais c'est cool, quand même, c'est le début. Là, on vous en souhaite quand même.
On espère que tu doubles, triples, quadruples.
On vous en souhaite pas 500 parce que vous allez arriver complètement crevé à la fin, là, mais quand même.
On en veut un deuxième.
On vous en souhaite quand même quelques bons moments de plaisir. Et pour le plaisir, ça va être ce soir au Zénith. Et puis, vous arrivez quand même toute fraîche, une très belle expérience lors de la carte blanche de Philippe Labrise hier soir. Je suis convaincu que ça va vous donner beaucoup d'énergie.
Je suis déjà en feu.
Bon, ben on l'a senti. Bien, merci beaucoup, Mélanie Ganimé.
Eh bien, merci à vous autres. Bonne journée.
Bon show ce soir.
Hey, vous êtes fin. Bye.
Talk to me. Trapped in your mind, I can get you out. Let me in. I know you've been waiting on the other side. I know you're here, are you with me? I wanna be there, will you let me? I know you're hurt, I can feel it. No more secrets. Open up, open up. Open up to me. Cause I wanna read you better. And I won't turn on you never. Open up. Me. Show me who you are when it's late at night. Take a seat. Cause I don't think I figured this out. I know you're here, are you with me? I wanna be there, will you let me? I know you hurt, I can feel it. No more secrets. Open up, open up. Open up to me. Cause I'm gonna read you better. And I'm gonna turn on.
C'était le nouveau single de la Québécoise Alicia Moffett, Open Up. Alicia Moffett, qui est une des plus grandes influenceuses du Québec actuellement, avec 354 000
elle est pas enceinte, hein?
abonnés sur Instagram. Oui, ben j'y arrive. On peut dire que la portée est considérable. Alicia, qu'on a connue pour la plupart d'entre nous à La Voix, troisième saison en 2015, mais qui s'était illustrée quelques années auparavant à The Next Star en 2013 sur la chaîne canadienne YTW. Elle est arrivée sixième dans la compétition. Alicia, qui tu viens de le dire, elle est enceinte actuellement de 39 semaines et demie et elle fêtera son 21e anniversaire concert le 22 juillet prochain. Maintenant séparée, on la connaît également pour avoir été en couple avec le grand gagnant de La Voix de cette même année, Kevin Bazinet, frère de Bobby Bazinet.
Yeah. And I wonder, baby, will you stay with me? Yes, I wonder now what we used to be. 'Cause I wonder, will you always love me?
On se rappelle de ce hit de 2011, Wonder, de Bobby Bazinet. Donc, Kevin Bazinet, son frère, qui avait annoncé en 2017 qu'il ne sortirait plus d'album après Talk to Me. Lui qui a une école de chant qui fonctionne très bien. Et à la plus grande surprise de tous et à la plus grande joie de ses fans, il a annoncé dernièrement qu'il allait finalement se faire plaisir avec un album au son 80s des années 80 avec des influences comme Prince, George Michael et Culture Club. Ça va dépayser tout le monde, clairement. L'album pourrait s'appelait Small Crime, qui est également le nom du premier single disponible depuis le 7 juillet dernier. On écoute un extrait. Ça, c'est Small Crime de Kevin Bazinet, cet album qu'il veut s'offrir. C'est super bon, c'est audacieux pour un Québécois.
Il voulait arrêter de faire sa carrière?
Il voulait arrêter, mais il a changé d'idée. Moi, j'adore. Il a son studio, il se produit lui-même. Ça donne une liberté vraiment intéressante. Et l'album, quant à lui, verra le jour à l'automne prochain. C'est intriguant, tout ça.
Vous écoutez Aime l'été.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Aime l'été. Louis Garon, microphone en compagnie d'Emmanuel Robitaille. Dans la prochaine demi-heure, Emmanuel, on va parler de parentalité positive.
Effectivement.
Ça, c'est quand même, c'est pas évident. Hein? C'est un gros sujet.
On va voir qu'est-ce qu'on peut dire à nos
tu
enfants.
Tu m'intrigues,
mais
déjà. Hein? Malheureusement, j'ai pas d'enfants, mais c'est pour ceux qui en ont, qui sont à l'écoute, je suis convaincu que vous allez être arrivés à votre... Ouais, on fait un peu de...
Moi, je pense que les enfants, ça appartient à tout le monde. C'est les enfants de la Terre. Et en tant qu'adulte, on va tous être un jour en contact avec un enfant et on peut faire la différence à n'importe quand, à n'importe quel âge. Ben, voilà ma maman.
Voilà un très beau message d'espoir. Et également, on va revenir sur la 4e édition de la journée de sensibilisation à l'autisme à la ronde. On va en parler avec Pascal Franco.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know.
C'est le temps de la chronique spiritualité, ésotérisme et pensée positive du jeudi en compagnie d'Emmanuel Robitaille. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, positive, plus positive que jamais aujourd'hui. On parle surtout de positivité et de parentalité positive. Aujourd'hui, je ne sais pas, chers auditeurs, si vous êtes parents, à quel point je ne suis pas maman moi-même, mais je suis marraine. Et je trouve qu'actuellement, être parent, c'est beaucoup de pression, surtout avec tous les yeux des réseaux sociaux qui regardent ce que tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Louis.
Ben, moi, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux. Alors, je me mets pas en scène. Fait que je suis un peu comme, sans dire que immunisé, mais... C'est vraiment, ça fait pas partie de ma vie. Alors, je m'expose pas, ainsi de suite. Comme ça, je m'expose pas aux commentaires également des gens.
Exactement. Mais t'as-tu dû entendre parler de ce phénomène
qui est...
Oui, c'est
sûr que j'entends. Puis à chaque fois que j'en entends, ça me désole.
Ben
puis
oui.
De voir que même malgré tout ça, il y a des gens qui persistent à s'exposer de la sorte sur les réseaux sociaux.
Eh bien, il y a le site lessuperparents.com, oui. Les superparents divisés par des tirets, qui propose tellement de magnifiques choses pour les parents, des outils, mais c'est réconfortant, ce oui. site-là. Je vous conseille d'aller faire un tour si ça vous intéresse, si ça vous interpelle. Et on y trouve sur ce site, on parle de parentalité positive et on retrouve également 8 phrases clés à dire à son enfant et qui peuvent changer positivement sa vie. Parce qu'on peut changer la vie de nos enfants, non pas juste par nos gestes, mais également par nos paroles, on le sait bien. Alors, c'est ce que je vous propose, entre autres, aujourd'hui. 8 phrases à dire à nos enfants qui peuvent changer leur vie. Tout d'abord, on peut lui dire, c'est à toi de choisir.
Et ça lui donne confiance, je présume, en ses capacités, en son jugement. On lui donne, c'est à toi de choisir. On responsabilise.
Effectivement. On responsabilise, on lui donne le droit de choisir et ça commence par des petits choix. Et après, il va pouvoir faire de plus grands choix. Donc, lui accorder la confiance qu'il est capable de choisir pour lui-même. Bien sûr, il y a des limites. On reste un parent encadrant. Mais c'est à toi de choisir. Ça peut offrir... Ça travaille l'estime personnelle de l'enfant. Deuxièmement...
On ne lui pose pas la question, c'est à toi de choisir entre papa ou maman.
L'aliénation parentale, on laisse faire, s'il vous plaît. La deuxième phrase qu'on peut lui dire, c'est « Vas-y, essaye-le ».
Oui.
J'ai l'impression, et je parle pour moi, mais j'ai l'impression qu'on a tellement... Puis je veux dire, je suis pas maman, mais je pense que... Je me vois là avec mes chats et je pense que je vais être une mère poule incroyable. Mm-hmm. Aussi autoritaire que mère poule, en fait. Mais j'ai l'impression que des fois, par amour profond, on veut pas qu'il se trompe.
Ouais.
Essaye-le! Prends-en le risque. Mm-hmm. Invite à être curieux, à prendre des risques, à essayer des nouvelles choses, à se débrouiller et à vivre l'échec. Mm-hmm. C'est un grand service à rendre à nos enfants.
Tout à fait.
Troisièmement, on peut lui dire « Tu es aimé et tu es en sécurité avec moi. » Et agir en conséquence, bien sûr. Mais ça peut être formulé différemment, mais inviter à rappeler leur valeur à nos yeux et qu'ils sont à l'abri en tout temps avec nous, c'est primordial pour un enfant.
Et ça permet à l'enfant de développer une confiance en soi qui est essentielle, surtout devant l'épreuve. Hein? Parce que si l'enfant a manqué d'amour, on n'a pas sécurisé assez, ça peut être très tragique lorsque cet enfant-là traversent une période plus difficile.
En fait, les troubles d'attachement sont très reliés à cette insécurité sur le plan de l'amour parental. Ouais. Donc, de lui rappeler qu'ils sont en sécurité. Ouais. Quand le monde va mal, there's a shelter, qu'on dit en anglais. Il y a un abri ici qui est assuré pour toi.
Ils peuvent compter sur... Sache que tu peux compter sur tes parents.
Quatrièmement, et ça, je l'ai entendu très rarement, tu me rends heureux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Donc, moi, je n'ai jamais entendu
ça. On entend de plus en plus les parents dire « Ah, je l'aime, j'aime mon enfant, mais tu as l'impression qu'il l'empêche de faire bien des choses. » Et souvent, on dirait que c'est seulement dans un moment bien précis. « Ah, mon enfant m'a rendu heureux, mais c'est exceptionnel quand, normalement, je ne suis pas parent moi non plus, mais le bonheur, me semble, d'avoir un enfant, ça devrait être... au quotidien ou tout le temps, 24 heures par jour. Mais là, je suis un peu peut-être utopique parce que l'enfant n'est pas toujours... c'est pas toujours idéal d'avoir un enfant. Il y a des choses qu'on doit... Il y a des sacrifices que ça implique. Et puis...
Mais j'ai surtout l'impression qu'on peut dire à d'autres dans un souper entre amis, moi, je suis heureux d'être parent. Mais de le dire à mon enfant, tu me rends heureux, c'est très pertinent. Et j'ose penser qu'on le dit pas nécessairement à nos enfants, alors que de savoir en très bas âge qu'on peut rendre quelqu'un heureux, j'ai l'impression que ça peut nous enlever des doutes et des incertitudes absolument inutiles quant à notre capacité de le faire plus tard dans tout type de relation. Je peux rendre heureux un conjoint, je peux rendre heureux un ami, je peux rendre... Tu comprends?
Oui, puis ça permet de dire à l'enfant, je peux, il peut être aimé également.
Exactement. Ensuite, j'ai confiance en toi et je crois en toi. Mm-hmm. On lui donne notre approbation, notre reconnaissance et notre foi en lui. En sixième, cela arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça minimise grandement la culpabilité, le sentiment d'inadéquation qu'on peut développer très jeune quand on fait des erreurs. Et quoi de plus vrai que cette affirmation? On en fait tous des erreurs. Donc, de le valider à notre enfant, ça peut lui sauver beaucoup de culpabilité plus tard. En septième, passe une bonne journée et n'oublie pas qui tu es.
Ah. Oui, mais qui tu es, c'est une question quand même qui est assez grave de sens parce que l'enfant aussi est en train de découvrir qui il est. Il ne sait pas toujours qui il est. Parce que, vous savez, la vie, c'est une découverte.
Et on se fait forger rapidement par l'image que les autres veulent avoir, que les autres veulent qu'on aille, nous. Mais pour qu'il construise son identité jour après jour et qu'il s'appuie sur sa propre opinion de lui-même avant celle des autres, c'est intéressant de lui rappeler. Rappelle-toi qui tu es. Hein? Comme ça, il y a une espèce de... Il y a moins de chances que les autres décident de qui tu es.
Ouais.
Et finalement...
Être maître de son propre destin.
Et de sa propre valeur, mon Dieu. Et finalement, bien sûr, je t'aime, évidemment, pourquoi pas. Et on a parlé de parentalité positive et on se laisse sur un texte de Thomas Gordon, qui est un psychologue américain, pionnier dans la conceptualisation de la résolution des différends, des conflits, par l'instauration... d'une relation gagnant-gagnant ou sans perdant. Par une approche de communication orale nouvelle, il propose un texte magnifique qui parle de deux approches pour une parentalité positive, soit A, l'écoute active, et B, bien sûr, la résolution de conflits sans perdant. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le lire à un enfant, surtout pas en bas âge, mais c'est un texte qu'on peut lire pour soi en tant que parent.
Qui peut être inspirant comme parent,
Oui, exactement.
Oui.
Et ça va comme suit. Toi et moi vivons une relation que j'apprécie et que je veux sauvegarder. Cependant, chacun de nous demeure une personne distincte avec ses besoins propres et le droit de les satisfaire. Lorsque tu éprouveras des problèmes à satisfaire tes besoins, j'essaierai de t'écouter, de t'accepter véritablement, de façon à te faciliter la découverte de tes propres solutions plutôt que de te donner les miennes. Je respecterai aussi ton droit de choisir tes propres croyances et de développer tes propres valeurs, si différentes soient-elles des miennes. Quand ton comportement m'empêchera de satisfaire mes besoins, je te dirai ouvertement et franchement comment ton comportement m'affecte, car j'ai confiance dans le fait que tu respectes suffisamment mes besoins et mes sentiments pour essayer de changer ce comportement qui m'est inacceptable. Aussi, lorsque mon comportement te sera inacceptable, je t'encourage à me le dire ouvertement et franchement pour que je puisse essayer de le changer. Quand aucun de nous ne pourra changer son comportement pour satisfaire les besoins de l'autre, reconnaissons que nous avons un conflit. Engageons-nous à le résoudre sans recourir au pouvoir ou à l'autorité pour gagner aux dépens de l'autre qui perdrait. Je respecte tes besoins et tu dois aussi respecter les miens. Efforçons-nous de toujours trouver à nos inévitables conflits des solutions acceptables pour chacun de nous. Ainsi, tes besoins seront satisfaits et les miens aussi. Personne ne perdra, nous y gagnerons tous les deux.
Alors ce texte, comme vous dites, on peut l'offrir à notre enfant, mais qui, je crois, peut nous servir en soi, en tant que parent d'abord et avant tout, un petit rappel de bienveillance tout en douceur. Merci beaucoup, mais en fin de compte, la conclusion, c'est de bien communiquer avec son enfant.
Absolument.
C'est de ne pas avoir peur de lui parler et d'avoir des discussions. Des fois, on a peur d'avoir des discussions d'adultes avec son enfant.
Ne sous-estimons pas.
Et on sous-estime le potentiel de compréhension chez son enfant. Et ça, essayez à tout le moins. Peut-être que ça va fonctionner ou peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais il faut à tout le moins essayer de communiquer avec son enfant ou d'améliorer les canaux. Et ça peut être très bénéfique dans la relation.
Et dans une nouvelle société d'enfants, une nouvelle génération également.
Je sais, il y a des jours, des endroits où rien ne va. Même pas un bateau, même pas toi. Mon univers à part. J'ai pas envie qu'il nous sépare. C'est vrai, j'ai pareil, même si je respire le même ciel, si je suis différente, mon cœur ne bat pas autrement. Pourquoi ma vie est un combat? C'est pourtant pas la guerre autour. Je crie parfois, c'est que j'ai peur qu'on m'entende pas. Si j'ai l'air tombé d'une planète qu'on ne connaît pas, c'est juste que dans ma tête il y a bien d'autres merveilleux qu'on peut partager. Pourquoi ma vie est un combat? Et pourquoi n'ai-je pas les mêmes droits que toi? Et même si je crie parfois, c'est que j'ai peur qu'on m'entende pas. On dirait qu'explorer les étoiles, les volcans, traverser tous les océans, ça paraît plus facile que jusqu'à moi trouver le fil.
On m'a dit c'est ma faute s'il n'est pas comme les autres. Il ne parlera pas, il n'apprendra jamais rien. Il faudrait l'enfermer pour son bien. Qu'est-ce que vous en savez? Laissez-lui le droit d'exister. Je me demande parfois qui guidera ses pas quand je ne serai plus là. Mon enfant ne doit pas vous faire peur. Il n'est pas méchant ni violent. Il voit juste des choses qu'on ne voit pas. Il sait des choses qu'on ne sait pas. Ouvrez-lui grand les bras, le cœur. Je l'aime tellement, je l'aime comme ça. Mon enfant, mon petit soldat.
Je sais. Si on est différent, le cœur ne bat pas autrement.
Une chanson de Sophie Robert. La chanson s'intitule « Mon univers à part ». Si vous l'aviez jamais entendu, si c'est la première fois, ben je vous invite à aller écouter le vidéoclip. Bien sûr, c'est une chanson qui porte sur les gens atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Leur peau est teinte et peinte en bleu. C'est mis en image d'une manière absolument magnifique. Et au-delà d'aller voir le vidéoclip de cette magnifique chanson, vous pouvez également participer à connaître l'univers particulier, magnifique, magique même, oui. de des gens qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme et de connaître leur réalité, celle de leur famille, le 4 août prochain à la Ronde pour la 4e édition. Ça aussi, c'est un chiffre magique, on dirait, de ce nouveau projet-là. Le 4 août prochain pour la 4e édition, de la journée de sensibilisation pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. On a Pascal Franco, coordinateur du projet, avec nous au téléphone. Bonjour, Monsieur Franco.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de cette journée très particulière pour la Fondation québécoise de l'autisme au Québec. Qu'est-ce qu'on va retrouver lors de cette journée de sensibilisation-là?
Alors en fait, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est la 4e fois qu'on organise cette journée de sensibilisation. L'objectif, en fait, il est double. C'est d'abord, le premier, c'est surtout de faire profiter les familles avec des enfants et des adultes autistes d'une journée ludique et à moindre coût. Parce que le prix spécial, en fait, qui est accordé dans le cadre de cette journée est bienvenu. On le sait, hein, que pour beaucoup de familles, l'aspect financier est important. Et du coup, voilà, d'avoir une réduction notable sur l'entrée à la ronde, c'est pas rien. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est de sensibiliser et de favoriser l'inclusion des personnes autistes. Ça, c'est un objectif auquel la Fédération est extrêmement attachée. Et donc, d'organiser cette journée où, en fait, à la fois les familles avec des enfants ou des adultes, hein, d'ailleurs autistes, vont pouvoir cohabiter avec tout public, finalement, ça nous semble être fondamental.
Mais vous l'avez mentionné, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi la Ronde? Comment vous avez trouvé ce site-là? Parce que c'est pas la place la moins bondée ou la plus facile, je dirais, pour une personne avec un TSA. C'est audacieux, le message est fort en soi quand même.
Oui, c'est assez audacieux, mais c'est justement c'est notre volonté, hein, c'est de favoriser l'inclusion des personnes autistes, que ce soit à l'école, en entreprise ou plus globalement dans la vie sociale, partout dans la société finalement, y compris dans un parc d'attractions. C'est-à-dire, c'est sûr que pour eux, c'est effectivement, ça peut être une journée qui est un peu intense, ils vont être très sollicités au niveau des sons, au niveau des images, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire des manèges peut-être un peu plus tranquilles ou qu'ils ne vont pas apprécier cette journée-là. Donc nous, notre volonté, c'est au contraire d'ouvrir grand les portes de tout type d'activité pour les personnes autistes et leurs familles, parce que c'est vraiment, on veut en faire un événement familial. C'est ça qui compte aussi.
Mais justement,
que les familles puissent se retrouver dans un endroit un peu ludique et puis partager comme une parenthèse enchantée. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite.
Mais qu'est-ce qu'on doit savoir sur la vie sociale des gens vivant avec un trouble du spectre de l'autisme et leur famille? C'est quoi leur réalité sociale et ludique, justement?
La réalité sociale, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein, en vous disant que la réalité économique en particulier, elle est difficile. Ben, faute de ressources spécialisées, il y a souvent un des deux parents qui arrête de travailler pour se consacrer entièrement à leur enfant. Ils sont souvent stigmatisés aussi parce que par les autres, hein, stigmatisés par le regard des autres, par les neurotypiques, on va dire, quand par exemple leur enfant est désorganisé à cause d'une surcharge émotionnelle et qui fait du flapping, c'est-à-dire qu'il bouge les bras ou les mains de façon un peu désordonnée.
Ça attire les regards.
Les dérange un peu. Or là, ils vont se retrouver dans un contexte où d'abord ils vont se retrouver avec d'autres familles qui sont confrontées au même regard, à la même pression sociale. Et puis ils vont malgré tout bénéficier d'un accueil dédié de la part de la Ronde. Il faut savoir que les employés, en fait, vont être sensibilisés via un petit feuillet qu'on a nous édité et qui va leur être distribué pour qu'ils comprennent un petit peu mieux quelles sont les caractéristiques et puis comment il faut essayer de réagir quand on est confronté à une situation qui nous semble, nous, un petit peu atypique, mais face à laquelle on peut tout à fait avoir les bons gestes.
Donc, le 4 août prochain pour cette 4e édition de la Journée de la sensibilisation pour les troubles du spectre de l'autisme, c'est à la Ronde que ça se passe. On a de l'aide des employés qui vont être au courant, qui vont avoir eu un cours de sensibilisation eux-mêmes avant d'accueillir les familles. Il va y avoir des surprises, des cadeaux, des prix réduits et des boîtes à lunch inclus également pour les gens atteints d'un TSA. Pas les parents, par contre, pas les proches, mais eux ont une boîte à lunch. Est-ce que c'est exact?
Alors en fait, il y a deux types de prix. Il y a une entrée sans repas qui est à $19.99.
Ce qui est très peu cher.
Et puis, c'est vraiment pas cher. Il faut savoir que le prix, normalement, c'est plutôt autour d'une soixantaine de dollars pour la ronde.
Quasiment 80, donc, je pense.
Oui, même, ça peut monter un peu plus. Mm-hmm. Donc le premier prix, c'est $19.99, donc sans repas. Et le deuxième est de $26.99 en combo avec un repas. Et là, en fait, n'importe qui, en fait, toutes les personnes qui vont accompagner peuvent bénéficier de ce tarif-là. Il faut savoir que la personne accompagnante de la personne autiste, son ticket d'entrée est gratuit. Il lui est offert. Donc, pour une famille de 4 personnes, on va faire simple, pour une famille de 4 personnes, dont une personne autiste, il n'y a que 3 personnes qui vont payer leur place. L'accompagnateur, un des parents, la place lui sera offerte.
Monsieur Franco, on parle de plus en plus des gens vivant avec le trouble du spectre de l'autisme au cours des dernières années. Avez-vous senti une plus grande sensibilité de la part de la population en général et également la façon dont on, je dirais pas traité, mais on perçoit ces gens-là?
En tout cas, nous, on y travaille.
Oui, je sais que vous travaillez fort, mais est-ce que vous avez senti au niveau au sein de la population quand même une plus grande sensibilité? Puis,
Oui, on le sent notamment à travers les revues de presse que nous, on fait de façon hebdomadaire. On s'aperçoit notamment qu'on en parle beaucoup plus dans les journaux. On en parle beaucoup mieux aussi, c'est-à-dire qu'on utilise un petit peu mieux les vocabulaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que c'était pas une maladie, hein, que c'était une condition. Bref, oui, on sent qu'on progresse, mais voilà, il faut rester encore vigilant et puis actif et puis continuer notre travail d'information et de sensibilisation.
Et plus subtilement, est-ce que vous sentez que la stigmatisation diminue ou elle se transforme? Ou elle augmente, ce qui serait dommage, ce qui me surprendrait, mais peut-être que c'est le cas aussi, remarquez.
Non, je pense pas qu'elle augmente. Je pense que vraiment les gens font de plus en plus attention. Il y a moins d'écart de langage. Les personnes qui sont confrontées effectivement à une crise d'un enfant, etc., sont un peu plus à l'écoute. Mais là, ce serait plutôt aux parents de répondre plutôt qu'à moi, en fait, à ceux qui sont directement concernés. On a des retours, hein, souvent, où c'est ça, ils sont quand même, des fois, ils en ont un peu gros sur la patate pour être un peu familier, mais moi, j'ai bon espoir, que le travail qu'on fait au fil de nos campagnes de sensibilisation, ça aide. Et puis, l'inclusion aussi dans les écoles, tout ça, ça participe d'une meilleure compréhension. Finalement, on a peur de ce qu'on connaît pas à partir du moment où on le comprend, c'est plus facile de réagir de bonne manière.
Et quelque chose qui est un peu plus triste, ce qui est arrivé à Laval dernièrement, comment réagissez-vous? C'est un peu triste ce qui est arrivé avec les employés qui s'occupaient de gens qui vivaient avec le trouble du spectre de l'autisme aussi.
Oui, on a eu plusieurs, depuis le début de l'année, hein, il y a eu plusieurs nouvelles effectivement assez alarmantes. C'est assez symptomatique d'un manque de moyens, en fait, hein, au niveau
le manque de ressources qui est toujours criant, là.
Absolument. Manque de ressources, manque de moyens, manque de personnel, qui fait que on peut arriver à des attitudes complètement déviantes. Celle-ci est particulière, hein, cela dit, hein, elle semble un peu extrême.
C'est l'exception, là, c'est pas la règle, faut le dire.
Mais c'est ça, oui, et donc là aussi, ça, c'est un autre des combats de la fédération, c'est d'essayer d'obtenir plus de moyens pour que les personnes autistes bénéficient d'un peu plus de support au quotidien.
Et ça passe surtout par la compréhension et la connaissance, et vous le faites bien, c'est une des missions premières. Il y aura un kiosque également sur place le 4 août prochain.
Oui, absolument, on sera sur place, oui, avec un kiosque. On y présentera nos guides, puisqu'on est des guides d'information et de sensibilisation, et on sera là pour répondre aux questions, à la fois des parents avec des enfants autistes,
mais
aussi de tout le public, en fait. On sera vraiment là pour éclairer les gens.
Et c'est presque tout le temps que nous avions, M. Franco, mais je veux rappeler aux gens que la personne autiste a besoin d'un billet d'entrée. L'accompagnateur entre gratuitement. L'accompagnateur n'a pas de repas inclus. La journée se déroule de 11h à 21h et on retrouve tous les détails sur le www.autisme.qc.ca. Et il faut acheter les billets en ligne avant le 29 juillet pour avoir le rabais. Merci beaucoup, M. Franco, et bon succès le 4 août prochain.
Parfait, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
C'est déjà tout pour ce
premier
tandem.
C'est déjà tout, Emmanuel. Ça a passé tellement rapidement. On remercie tout le monde, notamment Maurice Bolduc, qui était à la mise en onde. Et au choix musical, c'est vous, hein, parce que c'est Maurice qui fait le choix musical.
Oui, c'est moi, c'est je.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour tout.
Plaisir.
C'était un plaisir.
Merci, Louis, à toi de m'avoir accueilli en ce jeudi. Merci à Claire, également à la recherche.
Catherine Bourderon, ainsi que Christiane Campagna. Et vous serez de retour demain.
Seras
de retour demain en compagnie de Kevin Breton. Je savais que j'allais m'échapper d'ici la fin de l'émission.
Dès 11h30.
Bye-bye.
À demain.
Ha ha.